pour voir la vie en bleu. Quentin Feltz.
Vos enfants font une crise quand vous tentez d'éteindre l'écran ou de leur reprendre votre smartphone ou la tablette. Vos enfants regardent beaucoup la télé. Votre ado peut-être joue aux jeux vidéo énormément. 01 42 30 10 10. Appelez France Bleu Paris. Et puis vos enfants vous réclament pour Noël une console de jeux vidéo, un smartphone, une tablette. Est-ce qu'il faut céder ? Posez la question à notre spécialiste 01 42 30 10 10. Vos enfants ont du mal à se concentrer à l'école. Ils ont parfois un comportement violent. Ils font des cauchemars. On parle des enfants ce matin. On parle des écrans, de toutes leurs conséquences. 01 42 30 10 10 pour nous dire comment ça se passe à la maison. Pour nous dire comment vous avez mis des règles en place. Et aussi pour demander de l'aide à Sabine Duflo, qui est psychologue, qui est auteure du livre « Quand les écrans deviennent neurotoxiques » aux éditions Marabout. Il est paru le mois dernier. Sabine Duflo, bonjour. Justement, quelles sont les dernières conclusions scientifiques? Quelles sont les conséquences de ce trop-plein d'écran pour nos enfants? Qu'est-ce qu'on en sait en 2018?
Bon, ce qu'on observe, les réactions sont très proches de ce qu'on connaît déjà des effets de la télévision, qui est l'écran le mieux connu. On observe des troubles du sommeil. Oui. Alors, mal dormir pour un enfant, ça veut dire ensuite être de mauvaise humeur, fatigué, avoir des difficultés à mémoriser et donc ensuite à apprendre. Ce sont des troubles de la socialisation, la relation, des troubles du comportement et surtout des troubles de l'attention.
Et oui, quand on discute un petit peu avec les professeurs, je suppose que vous l'avez fait, Sabine Duflo, ils disent que les enfants ont du mal à fixer leur attention, à se concentrer beaucoup plus que les générations précédentes. Vous l'expliquez par l'explosion des écrans dans les foyers?
Oui, tout à fait. Les écrans ont cette particularité, quel que soit le contenu, de surstimuler l'attention qu'on appelle exogène ou non volontaire. C'est-à-dire le fait que dès que vous avez un stimuli visuel, auditif dans votre champ perceptif, vous ne pouvez pas faire autrement que d'orienter votre regard vers la source lumineuse ou de bruit.
C'est vrai qu'on les sent hypnotisés, les
voilà,
enfants, hypnotisés par les écrans.
Donc les écrans, à cause des effets formels saillants très forts, les images rapides qui se succèdent, les flashs visuels, sonores, etc., surstimulent cette attention exogène, non volontaire, et de ce fait, empêchent de développer une attention secondaire qu'on appelle la concentration.
Il y a un mot qui revient beaucoup dans votre livre et qui fait peur, c'est un mot qui fait peur, autisme. Il y a une explosion des cas d'autisme chez les enfants. Quel lien vous faites avec les heures quotidiennes passées devant les écrans?
Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une augmentation très forte. En fait, il y a deux pathologies qui ont énormément augmenté ces dernières années. C'est à la fois ce qu'on appelle les TSA, les troubles du spectre autistique, et les TDAH. Le point commun entre ces deux pathologies, c'est des difficultés attentionnelles majeures chez l'enfant autiste. C'est aussi très important chez le TDAH. Ce qu'on sait, c'est que les écrans créent des troubles attentionnels ou les voilà. Alors, par rapport à l'autisme, ce dont on convient, on est sûr, c'est que ça majore les troubles existants. Les autistes ont des problèmes, des difficultés à communiquer de façon verbale ou non-verbale, des difficultés à être en lien avec les autres, des difficultés à focaliser leur regard sur quelque chose qui ne bouge pas, et des troubles du sommeil. L'écran crée ces troubles-là, donc forcément ça majore les troubles chez ces enfants-là. Maintenant, est-ce que ça les crée? Ça, c'est autre chose.
Comment votre enfant réagit quand vous lui enlevez des mains, votre smartphone, la tablette, quand vous tentez d'éteindre la télé, comment ça se passe à la maison? Venez nous raconter 01 42 30 10 10 et puis aussi venez prendre des clés pour que ça se passe mieux, pour limiter le temps d'écran, pour contrôler aussi ce que nos enfants regardent, parce que parfois quand on s'y intéresse, c'est vrai que les contenus font un petit peu peur. On peut parler de la pornographie aussi, qui est assez facilement accessible pour les enfants, les ados. 01 42 30 10 10, bienvenue dans la vie en bleu.
France Bleu Paris. France Bleu.
Les Jackson 5 avec Blame It on the Boogie sur France Bleu Paris.
Voyez la vie en bleu sur France Bleu Paris.
On parle des enfants et des heures passées devant les écrans tous les jours. Ça vous effraie? Vous avez du mal à contrôler tout ça à la maison? Venez nous raconter comment ça se passe et venez aussi prendre les conseils de Sabine Duflo, qui est psy, qui est l'une des référentes en la matière et qui a écrit ce livre « Quand les écrans deviennent neurotoxiques » aux éditions Marabout. 01 42 30 10 10 pour nous rejoindre comme Jimmy à Paris dans le 12e arrondissement. Bonjour Jimmy.
Bonjour.
Bienvenue sur France Bleu Paris, Jimmy.
Merci.
Vous avez une fille qui est vraiment souvent scotchée devant un écran, Jimmy?
Qui aimerait, mais j'essaie de réguler ça.
Et, oui.
Et quand elle est face à un écran, c'est un ange. D'ailleurs, elle dit souvent, si tu veux que je reste sage, elle m'a en face de la nounou.
Ouais.
Voilà, c'est la meilleure nounou que tu puisses avoir. Elle a 10 ans et elle a ce disco, là, par exemple.
Ah bah, ça, c'est sûr qu'en tant que parent, on l'a tous remarqué. Si on a besoin d'un moment tranquille et d'un moment de paix et d'un moment de calme, les écrans ont cette faculté-là, Sabine Duflo, de décharger un petit peu les parents parfois.
Oui, tout à fait. Et c'est bien ça le drame, c'est que l'enfant qui est mytho va prendre l'habitude d'être stimulé et de finalement de ne plus répondre qu'à sa stimulation. Et quand la maman arrête les écrans, l'enfant pique une crise parce que c'est addictif et aussi parce que le réel, c'est ce qui l'entoure, ce qui l'environne, son hochet quand il est petit, ses jouets, etc., lui semble beaucoup plus terne. Il ne sait pas quoi en faire. Il est comme désemparé. Donc, mettre un enfant tôt devant un écran sans limite de temps, c'est rentrer dans une spirale infernale qui fait que lorsqu'on l'arrête, l'enfant est complètement désemparé et ressent une grande angoisse parce qu'il ne sait plus comment faire avec le monde qui l'entoure et le monde qui l'entoure lui paraît beaucoup plus fade et terne.
Vous parlez d'addiction, c'est un mot fort. Vous venez de nous en expliquer les symptômes. Racontez-nous un peu les réactions extrêmement violentes que vous dépeignez dans le livre. D'ailleurs, quand on enlève un écran à un enfant qui est addict aux écrans, il y a des réactions hallucinantes.
Oui, alors d'abord, on peut prêter attention aux faits divers. C'est de plus en plus régulier qu'on voit. Dernièrement, un petit garçon qui a... alors, c'est aux États-Unis, qui a tué sa sœur parce qu'elle lui a enlevé sa manette de jeu. Un autre garçon qui a tenté d'étrangler sa mère parce qu'elle lui a enlevé la console parce qu'il n'allait plus au collège. Bon, ce sont des réactions extrêmes, mais moi, en tout cas, dans mon CMP, je vois des parents qui n'osent pas parfois mettre des limites parce qu'ils me disent, mais si je vais créer une crise, je ne pourrai plus contrôler, quoi.
Qu'est-ce que vous leur répondez? Quelle est la solution face à ces crises, Sabine Duflo?
Et c'est là qu'il faut bien parler d'addiction. D'ailleurs, c'est le mot, employons les mots que les usagers eux-mêmes utilisent pour décrire le mal dont ils souffrent, ou les parents. C'est addictif parce que lorsque l'enfant est devant ou l'adulte, il perd complètement le contrôle du temps qu'il passe devant. Et lorsqu'on lui retire, il n'a de cesse que de rechercher à l'obtenir. Et il va par ailleurs négliger un certain nombre d'autres aspects de sa vie amicale, familiale, ne plus s'intéresser aux autres activités de sport, etc.
Comment on sort de cette spirale alors?
Alors, comme toutes les addictions, on commence par arrêter, par enlever l'objet qui nous aspire.
D'un coup, d'un seul.
Quand on veut sevrer quelqu'un, un alcoolique, etc., on va pas dire vous allez diminuer progressivement, passer par exemple...
Quand on fume, ça arrive quand on fume, de diminuer les cigarettes progressivement.
Oui, mais là, je pense que c'est une drogue beaucoup plus forte que la cigarette. Et en tout cas, pour des enfants très exposés, la diminution progressive, elle ne permet pas de revenir à une normale.
Donc, chez un petit, zéro écran?
Alors, pour un tout petit qui serait par exemple, comme ça m'arrive de voir tout petit, c'est-à-dire 3 ans, qui a 5-6 heures d'écran par jour, il présente nécessairement des troubles parce que les écrans volent du temps. Donc ces troubles, ça va être du trouble du langage parce que tout simplement, un enfant, pour parler, il faut qu'on s'adresse à lui, qu'il puisse échanger. Ça va être des troubles de la compréhension, des troubles de la relation, des troubles de l'attention. Donc là, avec un petit de 3 ans, les parents restent maîtres de l'éducation, donc on enlève tout. Avec un ado, c'est différent. Un ado qui, par exemple, ne va plus du tout au collège et finalement passe 8 heures par jour, on sait que c'est là le problème, mais on risque de déclencher des crises extrêmes. Donc, on commence par parler avec lui et voir s'il est d'accord pour qu'on mette en place autre chose avec lui.
Donc, pour Jimmy, vous lui conseillez d'en discuter, de limiter, et vous lui dites que les crises vont s'estomper.
Ah bah elle raconte que sa petite fille finalement elle est très maline. Elle dit, elle a tout compris. Donc oui, il faut en discuter parce qu'elle a compris aussi que c'était une manière pour sa maman d'avoir la paix et pour elle d'avoir un temps.
Lui expliquer que c'est mauvais pour sa santé, lui expliquer qu'il y a d'autres choses, lui montrer qu'il y a d'autres choses intéressantes.
Ça dépend, c'est-à-dire si sa petite fille regarde, je sais pas moi, une heure par jour d'un programme que la maman juge adéquat, pourquoi pas. Mais si c'est juste occupationnel, c'est-à-dire qu'elle rentre de l'école et à 16h elle s'installe sur le canapé jusqu'à 19h, ça pas.
Est-ce que ça vous éclaire un petit peu, Jimmy? Est-ce que vous avez une autre question?
Oui, moi, ce qui m'inquiétait, parce que pour la semaine, j'ai instauré une règle où elle a pas le droit à l'écran. Donc ça, c'est, on va dire, réglé, à part exceptionnellement, quand elle a passé une très bonne journée et qu'elle a fait tout le nécessaire, un matin où elle est prête à l'heure, elle a pris son petit-déj et il reste 10 minutes, un quart d'heure. Là, je lui permets, d'aller sur un jeu.
L'écran comme récompense, Sabine Duflo, c'est une bonne idée, ça, que ce soit une récompense?
Alors déjà, je trouve que cette maman, ce qui est bien, c'est qu'elle a instauré d'elle-même des règles qu'elle jugeait bonne, enfin. Et ça, c'est ça les meilleures règles. Les meilleures règles, c'est pas les règles des experts. C'est vous, parents, vous êtes l'expert de votre enfant, donc vous savez exactement ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour lui. C'est à vous de décider des règles au quotidien et aussi dans la semaine. Ça, c'est les meilleures règles, sont les meilleures règles des parents. Donc si vous jugez que c'est pas bon, ça, voilà, vous le supprimez. Et le problème, c'est que cette maman utilise, comme beaucoup de mamans d'ailleurs, parents, l'écran comme récompense. Donc il en fait l'objet le plus désirable. Et il faut arrêter ça parce que justement c'est addictif.
Comme
donc
on le fait avec les bonbons par exemple.
Voilà, c'est ça. Donc plutôt que de dire finalement t'as bien tout fait dans l'ordre, ce qu'on va pouvoir faire alors c'est une activité ensemble, on va sortir, mais pas l'écran comme ça, pas comme récompense, même si évidemment beaucoup de parents tombent dans ce piège.
Bien sûr. Pardon Jimmy, je vous ai coupé, que vouliez-vous dire ?
La deuxième chose, c'est que c'est une petite fille très intelligente qui analyse très bien.
On a bien entendu.
Ce qui m'interpelle, c'est son incapacité à tenir en classe alors qu'elle est au premier rang et qu'elle passe son temps à jouer avec ses stylos, à dessiner. Ce qui se passe en classe, en gros, ne l'intéresse pas. Jusqu'à ne plus vouloir aller à l'école. Je soupçonne que ça soit aussi issu du fait que ça manque de stimulus pour elle face à un adulte qui dispense un enseignement aussi important qu'elle peut l'exprimer.
C'est très intéressant, Jimmy, ce que vous dites, parce que vous allez voir que Jeanne, qui est à Melun, va un petit peu dans votre sens au niveau de sa question. En tout cas, Jimmy, vous êtes à Paris dans le 12e arrondissement. On va donc faire un petit tour à Melun, accueillir Jeanne. Bonjour Jeanne.
Bonjour.
Dans un instant, on va discuter ensemble de l'arrivée des tablettes à l'école. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Vous allez donc poser cette question pertinente à notre spécialiste. Ne bougez pas. Merci Jimmy pour votre témoignage. Belle journée à Paris dans le 12e.
Bonne journée.
Et à tout de suite Jeanne pour parler de ces tablettes qui effectivement arrivent à l'école. Bonne ou mauvaise idée? 01 42 30 10 10 pour nous rejoindre, pour nous dire comment ça se passe à la maison. Les enfants, les écrans, c'est compliqué. Des solutions avec notre spécialiste ce matin.
9h-11h, voyez la vie en bleu sur France Bleu Paris.
France Bleu. France Bleu et notre top
de douceur sur France Bleu Paris avec Vanessa Paradis et ses mots simples.
Voyez la vie en bleu sur France Bleu Paris.
Bah c'est simple aussi, les écrans ont envahi nos maisons, mais ont envahi aussi les médiathèques de quartier, les écoles aussi, parce que oui, les tablettes arrivent à l'école. On en discute de tout ça, de nos enfants, des écrans, avec Sabine Duflo, qui est psy et qui a écrit « Quand les écrans deviennent neurotoxiques » aux éditions Marabout. Sabine Duflo, voici Jeanne à Melun. Bienvenue Jeanne et merci. Oui. Merci de soulever cette question très intéressante. Vous dites qu'à l'école, on commence à introduire des tablettes. Vous l'avez constaté, Jeanne ?
Ah oui, alors là c'est pour ça, au niveau des devoirs qui se fait à la maison, vous avez des devoirs que l'enfant peut faire à la maison, vous avez dans les écoles maintenant il y a des tablettes qui sont données par le biais des associations éducatives et pour que l'enfant travaille. Donc moi je pense qu'il y a une discordance entre les deux, interdire, pas interdire. On donne d'un côté et on reprend, ça me fait l'effet du diesel et...
C'est juste comme remarque Sabine Duflo, le ministre de l'Éducation nationale, Monsieur Blanquer, dit pas d'écran avant 6 ans, c'est ce discours-là, et en même temps on introduit les tablettes à l'école.
Oui, bah vous pointez de façon très juste le double discours du gouvernement ou de l'éducation nationale qui a tenté d'introduire et réussi d'ailleurs le numérique depuis longtemps. Hein, c'était avant le gouvernement de Macron. Il y a eu distribution très large des tablettes dans les collèges. Et puis maintenant, c'est le primaire et même les maternelles aussi d'ailleurs. Voilà. Donc effectivement, c'est ce paradoxe, c'est que à la fois on observe que les enfants souffrent de plus en plus de troubles attentionnels, que les écrans en sont en grande partie la cause, et pour remédier au mal, on utilise le mal, c'est-à-dire on en remet une couche. Parce que le problème de ces écrans à l'école, c'est qu'ils vont surstimuler, stimuler des automatismes, créer des automatismes. Or l'école a pour but d'apprendre à l'enfant à penser par lui-même. C'est effectivement, si on veut avoir la paix, pour le dire simplement, l'écran avec une classe un peu agitée, c'est très bien de leur passer un film ou de leur faire apprendre sur des logiciels qui captivent leur attention. Mais voilà. Alors pour certains enseignements, ça peut se justifier, hein, si on veut montrer des œuvres d'art, si on fait un cours de géographie, ok. Mais ça doit être de manière ponctuelle et le maître doit rester maître de cet objet, de cet outil.
Tout n'est pas à jeter dans les écrans.
Non, non.
Y a de bonnes choses pédagogiques intéressantes, mais tout est une question de dosage. Et puis évidemment, en 2018, on ne peut pas passer à côté non plus du numérique et des écrans.
Oui, complètement. Mais de toute façon, ils n'ont pas besoin des enseignants et des parents pour apprendre à s'en servir, les enfants. Il y a quelque chose d'essentiel qu'ils doivent mettre en place au niveau du primaire, c'est l'apprentissage de la lecture. Et cet apprentissage de la lecture, on le sait, est empêché lorsque l'écran est allumé en permanence. Donc, ça peut se justifier d'utiliser le numérique un peu plus tard, à partir du collège, quand c'est pas systématique, mais avant, c'est vraiment un contresens. Quoi.
Venez nous rejoindre pour en discuter au 01 42 30 10 10. On va voir dans un instant comment contrôler, quels sont les outils à notre disposition, nous parents, pour contrôler ce que regardent nos enfants, notamment sur Internet avec les tablettes. Venez nous rejoindre, posez vos questions, témoignez, les enfants, les écrans, on en parle ensemble. 01 42 30 10 10.
Voyez la vie en bleu sur France Bleu Paris.
France Bleu.
Bonjour, Laurent Petit-Guillaume.
Tu m'as raison, si j'ai toujours raison, tu sais, j'ai pas toute ma raison. Si j'ai toujours raison, tu sais, j'ai pas toute ma raison.
Ton invitation avec Louise Attaque et Gaëtan Roussel, qui était l'invité de France Bleu Paris il y a quelques jours.
France Bleu Paris, pour voir la vie en bleu.
Et pour voir la vie en bleu, les spécialistes se succèdent tous les matins pour vous parler de votre vie au quotidien et notamment de vos enfants ce matin et des écrans. 01 42 30 10 10 pour échanger avec Sabine Duflo qui a écrit quand les écrans deviennent neurotoxiques aux éditions Marabout. 01 42 30 10 10. Mourad nous rejoint à Sarcelles. Bonjour Mourad.
Oui, bonjour madame.
Bienvenue Mourad, bonjour. Vous avez deux enfants?
Oui, j'ai trois enfants.
Trois enfants. Racontez-nous alors comment ça se passe avec les écrans.
Écoutez, j'ai le plus grand qui a 7 ans et un petit peu et demi, et l'autre 4 ans et 3 mois.
Ah oui.
Et le plus grand, ça va, on arrive à gérer parce que ça va, il regarde un petit peu la télé, fait ses exercices normaux, il joue tranquillement. Mais l'autre qui aime bien la télévision. Et du coup, surtout, ils regardent des dessins animés comme Mario. Il n'y a pas de comédie. Comme Mario, c'est juste un jeu. Il met sur YouTube qui parle pas. Il met des dessins animés qui parlent pas. Nous, à chaque fois, on le dit, il faut mettre les dessins animés si tu veux regarder. Tu regardes des dessins animés qui parlent, au moins, tu vas apprendre à communiquer.
Vous n'êtes pas le seul dans ce cas, Mourad. Hein. Beaucoup de parents doivent se reconnaître dans votre témoignage. Le contenu, Sabine Duflo, comment nos parents, on peut, avec toute l'offre aujourd'hui, contrôler le contenu? Effectivement, Mourad a raison, c'est quand même mieux de regarder un joli petit dessin animé mignon et adapté à l'âge de l'enfant que YouTube, des publicités pour des jouets aussi, comme on les voit beaucoup. Comment vous pouvez nous aider à ça, Sabine Duflo?
Il y avait deux choses intéressantes dans ce que disait Mourad. C'est que d'abord, d'abord, les enfants ne réagissent pas de la même façon. Mmh. Il y a des enfants qui, finalement, sont pas très gros consommateurs et d'autres, voilà. Et puis, d'autres qui surréagissent à simplement une demi-heure de dessin animé, voilà. Alors, après ça, le deuxième de Mourad, il a une réaction tout à fait normale, c'est que le cerveau va toujours au plus simple. Mmh. Et un cerveau d'enfant, c'est immature. Donc, il va choisir le contenu le plus pauvre. Donc le contenu le plus répétitif, etc. Et moi j'ai vu par exemple un enfant arriver, bon c'est pas du tout le cas l'enfant de Mourad, mais un enfant qui avait 3 ans, 4 ans, il ne parlait pas du tout, il ne regardait pas, il ne s'intéressait absolument pas aux objets qu'on lui donnait, et ce qu'il faisait depuis ses 1 an, c'était de jouer à ce jeu sur portable, vous savez, on coupe les fruits là, et on coupe les voilà, comme ça. Toute la journée. Incroyable. Le cerveau va au plus simple. Donc, si on le nourrit avec la pauvreté, eh bien, effectivement, il ne développe pas les compétences qu'il devrait développer.
Et Mourad, vous dites que votre fils, qui regarde beaucoup les écrans, parle peu et s'exprime assez mal?
Exactement. Surtout. En fait, il n'articule pas en fait les phrases. Alors, en fait.
Juste un mot, Sabine Duflo. C'est pas fichu. Si on réagit aujourd'hui quand on a un enfant et qu'on diminue l'écran, on récupère tout.
Alors, voilà, le parent fait des observations. Mourad fait des observations tout à fait justes. Donc, il faut tirer les bonnes conclusions. Il faut arrêter parce que le meilleur éducateur de parole et de langage pour l'enfant, c'est le parent. Hein, et ce qui va développer au mieux son quotient intellectuel, c'est les échanges avec le parent, les activités partagées.
Et donc le mimétisme, la première éducation, et rappelons ces chiffres, nous adultes, nous regardons notre téléphone portable 2617 fois par jour, nous le regardons, nous le touchons, et nous le consultons réellement 221 fois par jour, par exemple pour voir nos mails, etc.
Oui, alors là effectivement c'est autre chose, vous soulignez le fait que nous-mêmes nous sommes extrêmement accros, et effectivement si qui regarde son enfant 221 fois par jour. Très peu, hein. Donc, ce temps aussi qu'on consacre à nos écrans est du temps volé au temps qu'on pourrait consacrer à nos enfants. Et ce temps est indispensable. On sait que le temps d'échange parent-enfant est le meilleur indicateur d'une socialité ensuite réussie et d'un développement cognitif, intellectuel.
Alors,
c'est un temps précieux.
Dernier conseil, peut-être Sabine Duflo, pour tous les parents qui s'apprêtent à faire les courses de Noël. Évidemment, les enfants réclament une console pour Noël, un smartphone, un téléphone, une tablette. Comment on réagit? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il faut céder? J'ai l'impression que vous allez me dire non après tout ce qu'on s'est dit ce matin.
Alors, faites ce que vous, en tant que parent, vous jugez bon. C'est la première chose. Et puis, je voudrais juste vous dire que les gens qui construisent ces objets-là, eh bien, n'en offrent pas à leurs enfants. Ah. C'est ça qu'il faut savoir.
En conclusion, rappelons cette règle des 4 pas que vous avez instaurée, qui est beaucoup citée dans les médias, dans les journaux. La règle des 4 pas, c'est pas d'écran le matin.
Oui, c'est une règle qui peut valoir. C'est la seule règle possible à appliquer en famille parce que le parent doit rester un modèle. Donc pas le matin parce que c'est le moment où l'attention de l'enfant est la plus forte. Donc le matin, même 5 minutes avant de partir en classe, eh bien on va bousiller son système attentionnel. Et beaucoup d'enfants se lèvent plus tôt en plus pour regarder leur dessin animé préféré. Donc pas le matin, pas pendant les repas parce que dans une vie de famille aujourd'hui, c'est à peu près le seul moment où parents et enfants peuvent échanger. Et l'enfant, votre enfant a besoin que vous lui parliez, que vous le regardiez. Pas dans la chambre de l'enfant, parce qu'à ce moment-là, parents, vous allez perdre tout contrôle sur le temps que l'enfant passe avec l'écran et sur le contenu, et pas juste avant de se coucher, parce que maintenant, on sait très bien que les écrans, à cause de la lumière bleu-verte qu'ils diffusent, empêchent la sécrétion de la mélatonine, qui est une hormone régulatrice du sommeil.
Les écrans, pas le matin, pas pendant les repas, pas dans la chambre de l'enfant et pas juste avant de se coucher.
Voilà.
Merci Sabine Duflo, vous avez écrit ce livre « Quand les écrans deviennent neurotoxiques » aux éditions Marabout. C'est passionnant, ça fait peur aussi, mais on sent quand même cette prise de conscience qui est en train d'arriver dans notre société.
Tout à fait. Il faut que les parents reprennent confiance en eux. Ce sont les meilleurs éducateurs de leurs enfants. Il ne faut pas qu'ils l'oublient.
Merci Sabine Duflo. Demain, on parlera de votre santé, le foie. Vous en prenez soin de votre foie? Ouais, pas vraiment. Pourtant, c'est l'organe peut-être le plus important qui pourrait vous permettre de vivre plus longtemps et en bonne santé. Alors, la promesse de notre invité de demain, c'est de gagner des années de vie en appliquant ses conseils. Alors,